Enfin, peu importe, vous le relirez, on aura l'occasion de le relire, ne vous inquiétez pas.
La lettre aux familles.
Non, non, non. L'évangile de la vie. Donc, il demande de refaire le monde nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit à la fin, mais on le lira, ce passage, parce qu'il est quand même, il est quand même très clair. Le pape dit, les chrétiens doivent se mettre debout pour remettre, pour respecter toute une démarche, des démarches préambulaires, puis des démarches préparatoires, puis des démarches de mémoire, puis des démarches de mise en place, pour de manière, enfin bref, tout ça est très très précis dans sa tête, pour que la chrétienté et le christianisme donc prennent un visage totalement nouveau et pour constituer le monde nouveau. Très bien. Qu'est-ce que c'est cette histoire de monde nouveau? Voilà donc notre problème pour ceux qui n'étaient pas là hier. Notre problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce monde nouveau institué, mis en place donc par le Saint-Père. Est-ce que la chose, est-ce qu'elle est claire? Voilà. Donc, on essaie de formuler de notre mieux en nous aidant d'ailleurs. Il faut bien l'avouer, parce que là, je l'avoue, c'est une chose que vous le savez très bien, vous me connaissez bien depuis 6 ou 7 ans, que je ne sais jamais. Mais enfin, là, on est entre nous, alors donc, on cède donc des prophéties et des révélations ou des paroles que la Vierge donnait aux prophètes, aux âmes mystiques de l'Église chrétienne. Nous devons donc, et c'est le Père Tout-Puissant qui le demande, refaire le monde nouveau. C'est vrai que si vous relisez pratiquement toutes ces paroles, je ne sais pas moi, de Marc Robin, de Padre Pio, tiens, puisqu'on avait un disciple du Padre Pio hier, de plein de gens, vous allez vous rendre compte. L'autre jour, j'avais par exemple passé me voir quelqu'un dans mon ermitage. Bon. C'était il y a 2 mois, peut-être. C'était une petite musulmane de 25 ans. Elle me dit à mon père, moi je sais pas où j'en suis, etc. J'étais éduqué, enfin vous voyez, style à Marseille et tout, donc elle habite Marseille. Moi, les chrétiens, le Christ, Jésus, Dieu, tout ça, je n'entendais parler que de très loin, puisque c'est nous, on est musulmans. Et puis j'ai décidé, je sais pas, j'ai eu des lumières et tout ça, et puis j'ai décidé de me faire baptiser. C'était courageux de sa part, parce que son père est musulman. Alors petit à petit, bon, elle ne savait pas si elle avait raison. Alors elle venait me voir pour savoir si elle avait raison. Ben, je dis bien sûrement, certainement, oui. Non seulement vous avez raison, mais il faut absolument que vous arrangez pour baptiser tous vos frères et sœurs. À la maison. Ah, mais j'ai déjà réussi à en faire baptiser une. Ah, je dis, c'est très bien. Elle me dit, mais qu'est-ce qui arrive à vous convaincre sans indiscrétion? Ah, ben, je dis, ben, Jésus me parle. Ah, très bien, bon, je dis bien. Oui, ben, je dis, moi aussi, vous savez, c'est pas une affaire. Et elle me dit, oui. Mais elle me dit, est-ce que c'est pas indiscret de savoir ce qu'il vous dit? Alors, elle dit, non, ben, bien sûr, il dit, bon, ben. Et elle commence à me dire, ben voilà, il dit qu'il va mettre en place le monde nouveau, que c'est son cœur brûlant d'amour qui ne demande qu'une seule chose, c'est de se stabiliser dans nos facultés, dans notre sensibilité, dans notre corps, tout ça, et que bon, avec l'aide de la présence de la Vierge, une consécration totale avec elle, tout ça. Alors moi il me dit ça, j'y comprends rien, hein, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Ah, je dis, ne vous inquiétez pas, c'est ça fait rien. Dites-nous, répétez-moi quand même. Quand c'est... Bon, c'est bon, elle est gentille comme tout. Un jour, vous lui direz pas que si je l'amène un jour à Montpellier ou à. Vous direz rien. C'est vous qui. Il faudra que vous lui disiez. Ah, oui, nous aussi, c'est pareil, quoi. Alors, elle, c'est pareil, donc je vous donne cet exemple, je pourrais vous en donner d'autres, hein, c'est quelque chose de très courant, n'est-ce pas, aujourd'hui, hein? Voilà. Alors, le monde nouveau, qu'est-ce que c'est que cette histoire de monde nouveau? C'est tout à fait lié à ce qu'on appelle depuis plusieurs siècles, d'ailleurs, de prophéties, à commencer par les prophéties de Saint-Rémy, Saint-Hilaire, etc.
ce qu'on appelle, et puis surtout à partir de Sainte Marguerite Marie à la Coque, donc le règne du Sacré-Cœur. Bon, le règne du Sacré-Cœur, qu'est-ce que c'est? On nous annonce le règne du Sacré-Cœur, on nous annonce qu'un jour il va falloir que le règne du Sacré-Cœur se mette en place. Jusqu'à maintenant, on dit le règne du Sacré-Cœur, qu'est-ce que ça fait cucu, qu'est-ce que ça fait gnagnant, qu'est-ce que ça fait. Ça fait des images, ça fait des. Ah, c'est vrai, hein, ça fait un peu bizarre. Alors, mais à un moment donné, on se dit tiens, on commence à comprendre. À un moment donné, Jésus, du moins c'est l'amour de Jésus qui gouverne, qui va avoir une influence prédominante sur le gouvernement du monde, sur l'influence, j'allais dire, de l'ordre qui est mis dans le monde par la médiation d'ailleurs des êtres humains. Bon. Apparemment, on n'y est pas encore. Hein. Bon, très bien. Mais ce qui compte pour nous, c'est d'essayer de regarder comment se préparer précisément à être les vecteurs de la germination de ce monde nouveau. Voilà. Puisque le coup d'envoi a été donné par le pape, par le Saint-Père, il y a finalement très peu de temps. D'abord, il a commencé, je vous le signale, à déclarer la guerre à cette culture de mort. Il a fait une déclaration de guerre officielle, ce qui est quand même assez gonflé pour un pape. Hein. Le pape, l'Église et les jeunes déclarent la guerre à cette culture des morts. Parce que c'est la culture de mort, et c'est quand même, il disait ça devant, c'était Bush, je crois, qui était là. Bush qui était là. Et pareil, on a interrogé la télévision américaine, on a interrogé Bush en disant qu'est-ce que vous pensez que c'est de ces paroles du Saint-Père. Il dit, Ray, I really didn't understand what that means, you know. Vraiment, je comprends pas du tout qu'est-ce qu'il veut dire. Bush disait, nous, la culture de mort, nous, la culture de mort. Et c'est sûr, les jeunes, l'Église et le pape déclarent la guerre à cette culture de mort. Il y a une espèce de mise, de déclaration de guerre, et il a commencé comme ça. Donc ça, c'était Denver, il a répété ça en Lituanie tout de suite après, tout ça c'est 1993, vous vous en souvenez peut-être. Et depuis 1994, il dit, l'être aux familles, que c'est les familles donc, qui seront le vecteur, sachant que la famille, ça doit être pris au sens large, une petite famille spirituelle, une famille domestique, toutes les églises domestiques sont le vecteur spirituel de la préparation précisément d'un monde nouveau. Et puis, il y a de plus récemment les lettres qu'il écrit pour expliquer que, carrément, que c'est à partir donc du corps, et la place du corps dans la vie spirituelle, qu'il faut établir une nouvelle pratique dans l'ordre de l'amour, une nouvelle pratique dans l'ordre de la vie spirituelle, et une nouvelle pratique de l'Église. Donc c'est ce qu'on veut regarder. Bon, alors la charte qu'on avait lue hier, elle a l'avantage de venir, paraît-il, de la Sainte Vierge, n'est-ce pas? Alors donc on essaie de comprendre. Ce monde nouveau ne peut se refaire que spirituellement. C'est donc l'homme spirituel qui doit ressurgir. Cet être spirituel, cet homme spirituel existe déjà depuis sa création. Mais il erre, c'est-à-dire il cherche, il tâtonne, à la recherche de ce corps humain dont il fait partie. Il y a un problème entre le corps et l'humanité. Notre humanité et notre corps, notre humanité a un problème avec notre corps. Alors, c'est pas un mystère, ça. C'est l'avantage de ne pas être un mystère. Chaque personne a devant elle, alors ça c'est une affirmation, chaque personne doit savoir qu'elle peut découvrir face à elle, son corps spirituel. Et elle a le devoir, pendant donc cette vie sur terre, de pénétrer dans ce corps spirituel. Alors, il faut absolument qu'on sache ce que c'est que ce corps spirituel. C'est dans cette enveloppe que se trouvent toutes les qualités intérieures de l'amour qui vont permettre à l'homme spirituel de se purifier, de se vivifier, de se fortifier, d'entrer en contact avec Dieu, son créateur paternel. Parce que jusqu'à maintenant, si vous voulez, on est capable de rejoindre l'être premier, mon créateur, tout court. On est capable de rejoindre Dieu dans le Fils, dans le Christ. On est capable de vivre du Saint-Esprit, mais de toucher corporellement le Père, pas la première personne de la Très-Sainte Trinité, hein, mais la Très-Sainte Trinité qui me donne la vie. De toucher en moi la Très-Sainte Trinité qui fait que je vis spirituellement, qui me donne une âme spirituelle et qui fait que je vis spirituellement. Toucher la paternité créatrice de Dieu. Ça, c'est le petit secret, la découverte donc du Père, de la paternité de Dieu. Parce que c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que, bon, toutes les spiritualités, toutes les manières de vie, de la foi, de l'espérance, de l'amour, de la vie humaine, etc., bon, eh ben, ça va dans le sens de la lumière, Dieu est ma lumière. Ça va dans le sens de l'amour, Dieu est mon amour, Dieu, je me nie à Dieu, Dieu est uni à moi, et je suis attiré par l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu, je plonge en lui. Mais Dieu, ce qui fait qu'il est mon Père, c'est plus particulier. C'est plus... On a l'impression que c'est plus peut-être derrière nous, je ne sais pas. Vous voyez ? Je sais pas qu'on est. Et il faut faire se rejoindre justement cette paternité divine de Dieu. Et là, le corps joue un rôle considérable. Autant pour l'appréhension, la communion avec Dieu lumière. Dieu, c'est ma lumière, Dieu, c'est ma... C'est ma providence, c'est ma sécurité, c'est ma contemplation, c'est ma prière. Dieu, c'est mon amour, Dieu, c'est mon rayonnement. C'est... Autant là, j'ai besoin de l'âme spirituelle, autant pour retrouver la paternité, l'autorité, la vie, le contact avec Dieu physique, là, j'ai besoin de toucher la paternité de Dieu. Dieu est mon Père, Dieu est ma source de vie. Dieu est mon origine. Et là, sans le corps, je ne peux pas le faire. Et le Saint-Père a l'air de donc d'exprimer le texte que je vous ai lu hier, qu'on soit attentif à bien voir qu'il faut bien distinguer l'esprit corporel, ou si vous préférez, comme il dit, le corps spiritualisé, le corps spirituel d'une part, et le corps humain d'autre part. Il y a quelque chose dans l'humanité qui fait qu'il peut retrouver son corps spirituel et le fait que son esprit, son âme spirituelle est infusée dans le corps, esprit incarné. Il fait allusion donc à l'instant de notre création. Avant que l'âme spirituelle ait été infusée dans notre corps, ce qui jouait le rôle de notre corps l'instant d'avant n'était pas un corps humain. Notre corps n'est devenu un corps humain qu'à partir du moment où Dieu a infusé une âme spirituelle et l'a soudé au corps pour lui donner justement sa forme corporelle. Et l'âme spirituelle fait que le corps est spirituel. Comme c'est Dieu qui a introduit l'âme spirituelle dans le corps, l'unité entre l'esprit et le corps était substantielle, totale, parfaite, absolue dans l'origine, dans notre origine. Bon, la question de savoir si c'est dans la première cellule ou dans la troisième cellule, vous comprenez, bon, c'est important, je suis tout à fait d'accord, c'est important, c'est très important. Mais ce qui compte, c'est de savoir que, à l'origine, mon corps est brûlé par l'esprit. Le point de vue psychique n'existe pas. Le point de vue de l'âme, si je puis dire, n'existe pas. C'est l'esprit et le corps, là. Parce que, comme le dit le Saint-Père, par exemple, dans l'Évangile de la vie, il dit, dans cet instant-là, où Dieu crée l'âme spirituelle et l'unit substantiellement au corps dans une brûlure divine, ouais, c'est pas une brûlure naturelle, c'est une brûlure divine, eh bien, dans cet instant-là, le corps n'est pas formé. Le corps n'a pas forme de corps. Le corps est informe, comme il le dit dans l'Évangile de la vie. Vous savez que le corps est formé à partir du moment où il y a une synthèse organique. Saint-Père dit bien que l'âme spirituelle est infusée dans le corps lorsqu'il est totalement informe. Donc, c'est l'évidence même pour le Saint-Père, le corps est animé par l'âme spirituelle à partir du moment où il y a la fécondation de l'ovule. Pour le Saint-Père, il me semble que ça ne fait pas de doute, ça. Mais je vous lirai, vous inquiétez pas, des petits textes là-dessus. Mais ça a l'air de rien, cette histoire, parce que... Ça a l'air de rien, parce que c'est... Est-ce que c'est... Vous voyez la gestion des émotions que nous regardons hier. Est-ce que c'est par le point de vue, donc, de ce que je ressens, mais sens externe, que j'ai un corps spirituel? Est-ce que c'est par le point de vue de ce que je ressens, ce que j'éprouve dans l'irascible, le concupiscible, les passions, les sentiments, les impressions, les émotions? Ça, j'ai besoin d'organes pour ça. Que je suis spirituel? Ou est-ce que c'est à partir de ce qui est le plus fondamental dans le corps? C'est-à-dire l'aspect tout à fait cellulaire, primordial du corps. Ça a l'air de rien, mais c'est très très important, ça. Et justement, s'il faut commencer pour découvrir l'âme spirituelle à gérer ses émotions, c'est justement à cause de ça. C'est parce que je ne peux trouver l'aspect spirituel tout à fait pur, de la pointe spirituelle de mon être, qu'à partir du moment où je me dégage des informations vitales qui me sont données par le point de vue de la sensibilité, par le point de vue des sens externes, par le point de vue de ce que je ressens. Et là, ça s'appuie sur les organes. Il faut que j'aille en dessous. C'est beaucoup plus fondamental, l'aspect spirituel. Oui, chaque personne doit comprendre qu'elle peut se découvrir et retrouver, représenter devant elle son corps spirituel. Et elle a le devoir, pendant cette vie sur la Terre, de pénétrer dans ce corps spirituel. Donc, dans cette enveloppe se trouvent toutes les qualités intérieures de l'amour avec un grand A, qui vont lui permettre de se purifier, de se vivifier, de se fortifier et d'entrer en contact avec le Père Créateur par le cœur sacré de Jésus et celui de sa très sainte mère. Alors il pourra renaître homme nouveau. Bon, vous comprenez qu'une charte comme ça, vous flanquez ça dans quelqu'un, il va dire, c'est débile, il va se moquer de vous. Il faut être intelligent, je veux dire. Est-ce qu'on va employer certains mots plutôt que d'autres? Je vais employer, par exemple, quand je vais célébrer l'Eucharistie, certains mots. Je vais dire, ceci est mon corps. Pourquoi est-ce que ces mots-là sont efficaces plutôt que d'autres? Celui-là est efficace parce qu'il est trempé dans la décision incréée du Christ qui décide que c'est à travers ces mots-là qu'il y aura la transsubstantiation s'ils sont dits de la part de quelqu'un qui a reçu le caractère et le pouvoir sacerdotal. Ce sont ces mots-là qui sont efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils sont trempés dans le cœur sacerdotal du Christ entre l'instant donc de sa passion et de sa résurrection, à la fois dans le temps et dans l'éternité glorieuse cœur de Jésus. C'est parce que ces mots-là ont été brûlés et trempés et qu'ils ont été donnés par le Christ pour qu'ils soient prononcés par les hommes que ces paroles sont efficaces. Il en est de même pour les mots de la Bible, par exemple. Il y a quelque chose d'efficace dans les mots de la Bible si je les reprononce dans la bouche du Christ comme sortant du cœur brûlant du Fils de Jésus ressuscité d'entre les morts. À ce moment-là, ils ont une efficacité prodigieuse. Ce sont des mots qui viennent à ce moment-là d'être trempés dans l'aspiration du Verbe en union avec l'Esprit-Saint. Donc, ils ne viennent pas de l'homme. Ils viennent de l'homme, mais ils ont été redonnés à la Très-Sainte Trinité pour repasser par nous, par notre bouche. Voyez? Alors, c'est pour ça qu'on est attentif à cette question, donc, des mots, parce que on ne va pas prononcer n'importe quel mot pour essayer de retrouver, puisque c'est ça l'objet de notre petit travail, notre fameux corps spirituel. Donc c'est quand même un... Mais en même temps, il faut savoir ce que ce mot veut dire dans la bouche de Dieu, s'il nous vient de Dieu. Donc ce n'est pas parce que vous dites un mot avec beaucoup d'amour qu'il aide la fécondité de l'efficacité, pas du tout. C'est parce qu'il vient de Dieu, il nous est révélé par Dieu, il nous est reçu par Dieu et nous le retransmettons et c'est Dieu à travers nous, c'est en union avec lui que nous le reprononçons. Voilà. Est-ce que l'avortement est un péché, décidément, c'est une notion de péché, est-ce que l'avortement est un péché contre l'Esprit Saint? Non. L'avortement n'est pas un péché contre l'Esprit Saint. L'avortement est un péché contre l'enfant. C'est un homicide. Bon, alors, non, le péché contre l'Esprit Saint, je veux vous dire, je vous rappelle ce que c'est que le péché contre l'Esprit Saint. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est consiste à ce que quelqu'un fait alliance objective avec Satan. Personnellement, définitivement, quelles qu'en soient les raisons. Par exemple, je peux faire alliance objective avec des puissances intermédiaires, des puissances spirites, des puissances noires, des puissances kaaliques, des puissances déchues, quelles qu'elles soient, pour une certaine efficacité, pour arriver à mes fins dans tel ou tel domaine, pour avoir beaucoup d'argent, pour réussir, pour devenir milliardaire. Ça marche d'ailleurs très bien. Quelquefois, hein, ça marche très bien. Mais ça, c'est pas un péché contre l'Esprit Saint. Le péché contre l'Esprit Saint, c'est d'y persévérer jusqu'à la mort. Et à la mort, non, parce que toute faute est pardonnée, vous savez bien. La miséricorde de Dieu est tellement grande qu'il pardonne strictement tout, il lave tout. Tout est lavé dans le sang de l'agneau de Dieu. Mais il ne peut pas obliger quelqu'un, vous comprenez? Si bien qu'à la mort, quand vous passez de la mort apparente à la mort réelle, que vous avez encore vos derniers moments de liberté et que vous avez une grâce considérable qui vous est faite de la présentation de la miséricorde de Dieu, eh bien, vous refusez cette miséricorde encore, cette fois-ci. Mais comme vous êtes à la porte du temps et de l'éternité, vous percevez l'éternité, et c'est dans l'éternité et en même temps dans le temps que vous choisissez de refuser tout pardon. C'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Bon, alors, reprenons notre petite méditation sur la... Donc, je ne reviens pas sur ce qu'on a vu hier et avant-hier, je ne sais pas si c'était avant-hier, mais enfin, où il s'agit, quelles sont les voies d'accès pour redécouvrir le pneuma en nous, l'aspect spirituel de l'âme. Une fois que j'ai découvert l'aspect spirituel de l'âme, mon âme spirituelle, ça y est, j'ai compris. Ça y est, je vois où est mon âme spirituelle. Ça y est, je vois ce que c'est, surtout mon âme spirituelle. Une fois que j'ai compris ça. Non, Catherine, vous ne vous saisissez pas ce que c'est qu'un spirituel, c'est ça? Mais si, c'est facile! L'aspect spirituel de l'âme, il y a quelque chose d'extrêmement calme, quelque chose d'extrêmement spirituel, quelque chose de métaphysique dans l'âme. Bon, c'est facile, non? Vous voyez que vous existez, c'est pas j'existe. Vous ne pouvez pas ne pas le voir, vous existez. C'est pas la même chose que dire je vis, je bouillonne, ah, je me mets en colère, je suis pas content, je suis rempli d'amertume. Je pense, hein, j'ai la foi, tout ça, c'est la vie. Alors laissez votre vie de côté, pour une fois, hein, et puis touchez-vous, vous voyez que vous existez. Il y a quand même une différence incroyable entre l'être et la vie. Ça, vous voyez la différence quand même. Ah, ben voilà, dès que vous touchez l'être, ça y est, vous touchez quelque chose de spirituel. J'existe, ça c'est spirituel. Le fait que vous existez, c'est là où vous êtes, ça ne dépend que de Dieu. Ça. La vie, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend que de vous. Ça dépend aussi des influences extérieures. La vie, c'est terrestre. La vie, il y a quelque chose de terrestre dans la vie. Il y a quelque chose, il y a des déterminations naturelles dans la vie. Tandis que le fait que vous existez, ça ne dépend pas de nous. L'être vient d'une cause première. L'être, ça vient... On est suspendu. Ah, l'être, je suis suspendu à la créature de Dieu. Ah, du coup, bon... Du coup, ma vie s'anime. Dès que je prends conscience que de l'être, la métaphysique sert à ça, dès que je prends conscience de l'être, que je suis suspendu à la créature de Dieu, ma vie prend un mouvement. Il y a une animation de ma vie. Et cette animation est spirituelle. Hein. Automatiquement, j'existe. Ah, mais oui, je suis suspendu à la créature de Dieu. Ah, là, ça c'est spirituel. Là. C'est l'intelligence pure, l'intelligence contemplative qui commence à pousser. C'est pas une intelligence résonante, c'est pas une intelligence, on en a plein la tête. Hein. Non, 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 c'est une intelligence libre, spirituelle, humaine. C'est pas l'intelligence donc cérébrale, logistique, informatique, robotique. Voilà. Il n'y a aucune parole. J'existe. Je suis suspendu à un créateur de Dieu. Il y a quelque chose qui se libère dans mon esprit, dans ma vie, dans mon animation. Il y a quelque chose qui est spirituel, qui est contemplatif, qui apparaît. Surtout si je m'y habitue. Ça, c'est spirituel, ça. Mon vécu, c'est autre chose. Ah, justement, mon vécu. Ah, oh, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. J'en ai marre. Personne ne me comprend. Même à l'église, j'en ai marre, tout bon et tout. Bon, et pas seulement dans l'église, dans ma famille, n'en parlons pas. Ma mère, l'éducation que j'ai reçue, atroce. Bon, et tout. Enfin, bref. J'ai des émotions, quoi. Bon, ces émotions, il faut savoir que ces émotions sont des déterminations affectives qui se sont tordues parce que, justement, les séquelles du. Le fait que je ne sois pas encore un saint, le fait que dès le départ ma sainteté s'est déviée, le fait qu'il y ait une séparation de Dieu, le fait que mon corps soit devenu opaque, le fait que ma personne précisément ne soit pas dans une liberté d'amour quasi infinie, c'est qu'effectivement je vis d'émotions qui sont lamentablement pécamineuses, pas au sens culpabilisant, hein, mais pénibles, quoi. L'amertume, la tristesse, le découragement, l'angoisse. Les montées émotives, ça, vous comprenez, c'est pas spirituel, ça. Et même, quelquefois, des joies. Ah, qu'est-ce que je suis joyeux aujourd'hui, vraiment, ça, vraiment, je pète les flammes en ce moment. Ouh, je me sens dilaté, c'est pas spirituel, ça. Que je sois oppressé ou dilaté, c'est pas spirituel. C'est pareil qu'un ballon. C'est pas spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est à la source de votre vie affective et qui est calme, qui est le choix paisible, qui est cette soif d'amour incréé éternel, qui est cette espèce de courage d'aimer, par exemple, découragement. En tout, il y a une grâce de courage. Il faut rejoindre cette grâce de courage. Parce qu'elle sort de votre faculté, de votre deuxième faculté spirituelle qu'on appelle donc le cœur profond, la volonté. Et quand vous êtes dans la tristesse, il y a une grâce qui est cachée en dessous, qui est une grâce d'unité. La tristesse vient toujours d'une séparation. Et vous retrouvez là ce qui sort comme une transpiration, comme une petite source, comme un petit liquide qui sort, comme toujours en pression notre cœur. Notre cœur est toujours en pression. Donc ce qui sort du cœur, c'est comme ça, mais tout de suite, je ne sais pas pourquoi, c'est dévié, parce qu'il y a des obstacles tout de suite à la sortie du cœur, les blessures, les mémoires, les trucs comme ça, les trahisons, les échecs, hein, les maladies aussi, le truc psychique aussi, tout le point de vue des névroses, des psychoses, tout ce que vous voulez, qui viennent là, mettre des couches successives tout de suite. Alors, donc, notre amour ne va pas dans une ligne pure et droite. Alors du coup, il se dévie et il se transforme en émotion. Donc la gestion des émotions, c'est très important. C'est capital, c'est complètement aberrant de ne pas trouver la source de son cœur. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé en soi l'amour, quoi, dans sa source. Donc on n'est pas capable d'aimer dans notre source de nous-mêmes. C'est terrible. Il faut retrouver cette source de nous-mêmes comme capacité d'aimer. Ça va? Le corps profond. Et pour ça, c'est facile. Je vous ai expliqué donc comment on fait pour gérer les émotions. En dessous, ben voilà, je sais qu'il y a cette source de courage quand je suis dans la dépression. Cette source d'unité quand c'est une émotion. Si c'est je bondis, là, ça, je supporte pas ça. Là, je supporte pas ce que le papa dit. Là. Il a rien compris, parce qu'il y a plein de gens qui pensent comme ça. De l'église, etc. L'autre jour, je prends je sais pas si je vous ai raconté, un type en stop. C'est pas un type en stop, un jeune normal. Enfin, normal, éducation télé quand même, mais enfin, normal pour la France, quoi. Bon. 20. J'étais sur la route de tranquille, sur la route de Toulouse, rouge aux fleurs d'été, qui rendent rigolos de toute vérité. Je m'arrête, ce brave garçon qui me dit stop, hein, il avait son sac et tout. Je dis allez, ok, tu rentres. Il dit c'est bien si tu mets ta ceinture de sécurité parce que. Elle dit ouais, parce que vous allez vite, hein, ouais, oh là là. Je dis non, pas vite. Et il pleut, hein, moi. Puis il s'aperçoit que. Cette personne, j'ai un habit, tout ça. Il dit, vous allez au ciel, mais moi, j'y crois pas, hein. Donc, vous allez tout doucement. D'accord. Et puis, il me dit, ouais, de toute façon, moi, j'y crois pas, je suis athée, hein. Je vous promets, je suis athée, complètement athée, athée. Bon, ça veut pas dire que je suis... Non, je suis athée, c'est tout. Ah, je dis, bon, c'est bien, c'est très, très bien. C'est très bien, je sais pas, moi, je sais pas, quoi. Ouais, bon, ben, d'accord, bon, ben, ouais. Mais enfin, quand même, tous ceux qui disent que Dieu, tout ça, la religion, c'est vraiment de la connerie, quoi. C'est de la connerie. C'est de la connerie. Alors, je dis, bon, oui, d'accord, mais ça veut dire que tu veux dire par là que je suis un con, quoi, puisque je suis dedans. Ah non, la tolérance. Ah non. La tolérance. Moi, je suis la tolérance. Ah ouais, la tolérance, c'est la mère, c'est la matrice de tout, hein. Sans la tolérance, on peut pas vivre, hein. Donc, bien sûr. Mais enfin, c'est vraiment de la connerie, hein. C'est de la connerie. Et puis, petit à petit, ça montait. C'est comme ça. Il dit, ouais, la religion, vous comprenez, c'est ça, c'est sûr. C'est un truc complètement fou. C'est la religion qui a du mal. Ben ouais, parce que c'est la religion. Il dit, explique-moi ça. Ben ouais, parce que c'est la religion qui a inventé que ça, c'est mal, ça, c'est bien. Et comme la religion met ça sur les hommes pour que les hommes, pour les, eh ben, ils soient dirigés, comprenez, qu'on soit. Et elle a inventé le mal et le bien, et du coup on est obligé de faire le mal. Mais si la religion n'avait pas inventé le mal et le bien, eh ben, on ferait pas le mal, il n'y aurait pas de mal. C'est à cause de Dieu, c'est à cause de la religion qu'il y a du mal. Dieu source du mal, c'est pas mal. Mais le type il pensait. Mais bon, il répète tout simplement ce que dit Michel Rocard et compagnie, et Jacques Lang et compagnie, c'est tout. Le pauvre vieux, c'est ses éducateurs principaux. Alors donc. Mais oui, mais il y peut rien, le pauvre garçon. Il y peut rien. Et il dit, vous comprenez, quand je pense que j'ai été baptisé et j'ai reçu l'eau du baptême ici, je vous assure, ça me fait honte. Je sens toujours, sans arrêt, je sens l'eau du baptême. Et ça pue. Alors je dis, écoute, si ça pue, c'est dommage. Peut-être tu sais que le bien, le mal, bon, même suppose qu'il n'y ait pas la religion, je veux dire, que tu, je sais pas moi, que quelqu'un se précipite sur toi, tu lui rends service et tout, et puis il prend un coup de poignard et te torture. Tu vas pas dire que c'est bien ce qu'il fait, même suppose qu'il n'y ait pas de religion. C'est objectivement, c'est mal. Non, c'est la religion qui a inventé ça, et tout ça. Et puis il a commencé à s'énerver et tout. Je dis, mais comment je vais faire pour calmer ce pauvre garçon? Mais c'est impressionnant, l'esprit de ce monde, culture de mort, qui arrive à percer. Persuader les gens à partir d'une sincérité extraordinaire, hein? Que ce qui est mal en soi, c'est le bien en soi, et ce qui est bien en soi, c'est incroyable, comme la haine et s'est transformée en amour, et l'amour se transforme en haine dans leur vision des choses. C'est extraordinaire, c'est pour ça que le pape dit, déclare culture de mort cette civilisation, et qu'elle est condamnée. elle doit se désagréger totalement. Il ne restera rien de ce monde. Rien. Et il faut faire, il y aura un monde nouveau. Comprenez? Alors, bon, à un moment, je suis dit, bon, elle me dit, ouais, ça pue, et puis tout pue, tous les gens qui sont dans la région, ils puent, tout. Mais je dis, bon, si je pue tellement. Je dis, ouais, vous puez, mais dis-moi, excuse-moi, mais calme-toi. Je dis, mais toi, par exemple, qui n'es pas dedans, tu ne pues pas, par hasard? Et puis, j'éclate de rire, parce que je trouvais ça tellement cocasse. J'éclate de rire. Il n'a pas supporté que j'éclate de rire, parce que c'était sérieux ce qu'il disait. Il n'a pas supporté que j'éclate de rire. Elle a dit, non, laissez-moi sur le côté, là. Je ne peux pas supporter que vous puissiez rire sur des choses aussi sérieuses. Mais c'est un garçon qui était normal, hein, je vous affirme. Je suis capable de voir quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui ne l'est pas. C'est un garçon qui est normal, mais qui a vécu sans aucune éducation éthique, sans aucune éducation... Il était éduqué par l'école française. C'est tout. Voilà pourquoi je disais ça, je ne sais plus. C'est parce que vous comprenez que c'est donc important que Dieu ait prononcé des mots et une révélation pour nous donner l'homme livré à ses propres forces. Eh bien, il finit par marcher la tête en bas. Parce que il finit par marcher la tête en bas. On a quand même besoin d'une lumière. Et cette lumière, nous avons besoin de Dieu pour commencer à vivre, mais nous avons besoin aussi de Dieu pour comprendre notre origine, pour la retrouver. Nous avons besoin également de Dieu, ça c'est sûr, pour retrouver notre finalité. Et à plus forte raison, nous avons besoin de Dieu pour retrouver notre corps spirituel. Alors, je voulais vous lire quelques passages donc, dans l'Écriture. L'agressivité. Ben, une fois que c'est l'agressivité.
C'est pour ça que vous avez raconté.
Là, oui, bon, peu importe. Bon, enfin, j'ai une émotion d'agressivité. Le type, il se met en colère. Il ne savait pas gérer ses émotions, c'est trop clair.
C'est pas facile, parfois, quand on est vraiment sous la colère.
Bon. Mais la grâce, c'est que c'est en dessous de... Eh bien, il y a une grâce qui est en dessous. Il ne faut pas te laisser prendre par l'émotion d'agressivité, etc., qui d'ailleurs t'est imposée, parce que le pauvre vieux, il était complètement... Toutes les opinions qu'on a, elles nous viennent d'où? Elles ne viennent pas de nous. Elles ne viennent pas non plus de notre origine, ni de Dieu. Elles viennent de l'extérieur. On est un buvard. On pompe toutes les propagandes, tous les trucs de télé, tous ces trucs comme ça. C'est avec des gens. C'est de la philosophie analytique, c'est de la philosophie hegélienne, c'est de la philosophie... On pompe tout ça, on pompe du Crochet, on pompe du Nietzsche, on est imbibé de ça, imbibé. Alors bon, et ça, donc ces réactions viennent plus ou moins de là, que ce soit au niveau des pensées, au niveau des opinions, nos manières de voir, que aussi nos réactions affectives. Bon, donc la chose est claire. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même une vérité affective qui est cachée derrière cet aspect tordu de notre manière de vivre les émotions, l'affectivité, l'émotivité. Donc, en dessous, il faut saisir la grâce qui est cachée en dessous, derrière l'agressivité.
Et c'est quoi?
C'est le calme. L'amour est calme, l'amour est tranquille, l'amour est confiant. Il y a une espèce de confiance totale. Qui sort de mon cœur en ce moment, une confiance totale. Parce que quand je me mets en colère, ça veut dire que je me sens en danger de perdre quelque chose. J'ai peur que de dépendre trop de celui que j'aime et que cette dépendance soit un esclavage. Je me mets en colère pour couper. Et donc la grâce qui cache en dessous toute émotion d'agressivité, de colère, de révolte, et qui sort de votre cœur, c'est pas une grâce de Dieu, hein, c'est une grâce qui sort de votre cœur, de votre nature amoureuse. Mais spirituellement, c'est ça, c'est une dépendance actuelle de l'amour pur de Dieu, de l'amour pur, de la finalité, si vous voulez, de l'épanouissement. Vous êtes en dépendance totale de cet amour. C'est une dépendance confiante. C'est ça, cette grâce-là. Vous ne la ressentez pas? Ah, vous ressentez la révolte, vous savez. Mais vous ne ressentez pas la dépendance totale dans la confiance, dans l'ordre de l'amour. Et elle vient de vous. C'est naturel, ça. Bon. Bon, une fois que vous avez trouvé votre âme spirituelle, on est donc d'accord. On ne va pas revenir les 8 jours sur âme spirituelle, quand même. Bon. L'aspect spirituel de votre âme, donc ce lieu où c'est vous, dans votre presque origine, quelque part, votre pureté spirituelle, votre pureté d'identité, votre je suis, tout ça. Alors à ce moment-là, à l'intérieur de votre âme spirituelle, vous savez ce que vous avez trouvé à l'intérieur de votre âme spirituelle? Caché au fond, quelque chose de plus extraordinaire que l'âme spirituelle, parce que c'est du centre de l'âme spirituelle qu'apparaît la grâce. La grâce, c'est une espèce de lumière vivante, une espèce de liqueur, odeur efférente, de vie divine. C'est une participation à la nature divine de Dieu. À l'intérieur de Dieu, il y a comme un espèce de diaphane, un espèce de vécu intérieur à l'intérieur de Dieu, dans la très sainte Trinité. Il y a un espèce de diaphane, une espèce de lumière vivante. Un espace de vie divine qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre humainement sur la terre. Et cette espèce de diaphane intime qui est à l'intérieur, qui fait l'unité vivante de Dieu, on appelle ça la gloire. Mais quand on en a une petite partie, participation, on appelle ça la grâce. Vous avez une partie de cette espèce de climat vivant qu'il y a à l'intérieur de Dieu. Ça s'appelle la grâce. Ça va? Si vous voulez un petit schéma imaginatif, moi je vois ça comme une espèce de... Je perçois comme une espèce de liqueur, de lumière vivante, très extraordinaire. Une touche délicate dans l'âme, comme dit Saint Jean de la Croix. Une vive flamme d'amour très extraordinaire. Ça, c'est la grâce. Au fond de l'âme, il y a la grâce. La grâce qui vient d'où? Qui vient de tous les sacrements que vous avez reçus. Vous avez reçu le sacrement du baptême, vous avez reçu le sacrement du corps du Christ, vous avez reçu l'absolution dans le mystère de la confession, vous avez reçu le sacrement du mariage, vous avez vécu du sacerdoce, voyez. Vous vivez en vie des 7 sacrements. Et quand on vit des 7 sacrements, vous savez que les 7 sacrements sont des robinets. Les sacrements ne sont pas des fins en soi. Les sacrements sont tout simplement des espèces de robinets, des espèces de trucs que vous ouvrez le robinet et vous recevez ce que le robinet a à vous donner. Le sacrement, une fois qu'il a déposé, qu'il est passé sur vous, qu'il est passé en vous, que vous y avez communié, après, il disparaît dans son passage. Vous communiez, puis après c'est fini, je veux dire, la digestion, le sacrement de l'Eucharistie disparaît. Le lendemain, il n'y a plus l'hostie dans votre corps, vous le savez bien. Mais à chaque fois que Jésus passe sous la modalité d'un sacrement, donc dans sa présence corporelle, corps, âme, sang, divinité, absolument, substantiellement, personnellement, vivifiantement présente, à chaque fois, le sacrement disparaît. Exactement comme si vous enleviez le très saint sacrement d'un tabernacle. Hein. Et Jésus dit à chaque fois, il vaut mieux pour vous que je m'en aille parce qu'il va laisser quelque chose d'autre. Le sacrement, c'est pour ce quelque chose d'autre qui va être déposé au fond de mon âme spirituelle une fois que la présence personnelle, sacramentelle, corporelle, divine, vivante, brûlante de Dieu, le Verbe incarné, rédempteur et glorificateur de tout est passé. Il laisse quoi? Il laisse le fruit des sacrements. Et ce fruit est quelque chose donc de très très important encore aujourd'hui. Vous avez encore au fond de votre âme le fruit du sacrement que vous avez reçu par exemple dans votre première confession, la confession que vous avez faite il y a 40 ans. Il y a encore ce fruit qui est là. Et tous ces fruits sont surajoutés à chaque fois que vous avez rencontré, par exemple, supposez, la plénitude du sacerdoce, quand vous avez, vous rappelez quand vous avez, on a, certains d'entre vous, bon, ben, quand on a touché la main du pape qui nous a parlé un petit peu, on a touché quelque part le sacrement de l'ordre, parce que un évêque a la plénitude du sacerdoce. Donc je reçois, lui il a le sacrement, et moi je reçois le fruit, comprenez? Donc dans mon âme j'ai le fruit du sacrement de l'ordre. Le fruit du sacrement de l'ordre, c'est pas seulement pour celui qui est prêtre, hein. C'est pour c'est pour tous ceux qui touchent le sacrement, qui l'utilisent. Par exemple, un prêtre enseigne en tant que prêtre, hein, à ce moment-là, vous recevez du sacrement, de la présence réelle sacerdotale du Christ. Vous essayez de comprendre ce qu'il dit, ce que vous faites par exemple, je suppose, au moins quelques-uns d'entre vous en ce moment, et bien après, vous allez en retirer au fond de votre âme un fruit que vous découvrirez. Bon. Le fruit, ce sont ces sept dimensions au fond de l'homme. C'est les sept dons du Saint-Esprit qui brûlent le corps ressuscité du Christ. C'est l'Esprit-Saint répandu dans ces sept dons et qui sont unifiés dans la plénitude de grâce de la Vierge Marie. Parce que la grâce fait l'unité, donc votre grâce fait l'unité entre la présence de la Vierge, plénitude de grâce, et les sept dons du Saint-Esprit qui brûle le corps ressuscité du Christ, dont nous avons une révélation imagée dans le chapitre 1 de l'Apocalypse. C'est ça que vous trouvez au fond de votre âme, spirituel. Vous trouvez une présence réelle, pas per modum substantiae, pas par mode de substance, pas par mode de sacrement, mais par mode, per modum vitae, par mode de grâce. C'est une vie. Mais c'est une vraie, là. Mais quand vous allez à l'intérieur de votre vie, vous voyez bien que ça bouillonne là-dedans. C'est bien réel, c'est pas parce que c'est de la vie que ce n'est plus réel. C'est réel, les mecs. Et là, au fond de votre âme spirituelle, vous allez plonger, investir au fond de votre âme spirituelle, laquelle est la forme de votre corps. L'âme spirituelle, du point de vue spirituel, saisit toutes les cellules de votre corps. Elle investit lumineusement toutes les cellules de votre corps, et une fois que donc, vous êtes dans l'âme, dans votre âme spirituelle, vous saisissez partout en vous cette présence du fruit des sept sacrements, c'est-à-dire de la grâce sanctifiante, ou si vous préférez, vous êtes dans le sein, dans l'océan immaculé de grâce de la Vierge Marie. C'est l'Immaculée Conception qui est là, dans sa touche vivante. Elle est là, corporellement, spirituellement, grâce aux fruits des sacrements. Sauf si, justement, il y a eu un péché mortel. À ce moment-là, cette grâce et le fruit des sacrements est mis mystérieusement de côté. Ça ne veut pas dire que c'est complètement perdu. Ça veut dire que dès que vous allez retrouver vite un nouveau sacrement, par le mystère de la confession, vous retrouvez cette grâce mise de côté avec tous ses fruits, avec une grâce supplémentaire pour l'orner, la décupler encore dans l'ordre de la miséricorde et de l'amour. C'est sûr que l'effet du péché mortel fait que vous quittez la grâce et l'état de grâce. N'empêche que vous trouvez donc la présence de l'Immaculée, l'Immaculée Conception. Et c'est ça qui est extraordinaire, cette assimilation, cette unité vivante. Vous voyez bien, ce n'est pas une dilution, un mélange qui fait que la Vierge disparaît en nous ou moi dans la Vierge. Non, non, on reste tout à fait elle ce qu'elle est et nous ce que nous sommes. N'empêche que, du coup, elle a prise sur nous. Et nous avons habitation en elle. Et à ce moment-là, une nouvelle naissance, quelque part, apparaît. Et qu'est-ce que fait la Vierge? Et c'est là, peut-être, le petit secret du monde nouveau. On est tout entier à elle. Elle est tout entière à nous. C'est sûr que la grâce est quelque chose qui dépasse un tout petit peu notre corps. Parce que l'âme spirituelle donne la forme à notre corps, mais il y a quelque chose dans le point de vue spirituel qui dépasse le point de vue du corps. De sorte que la grâce et l'Immaculée est comme notre enveloppant. Mais en même temps, et simultanément, du coup, nous, nous nous réfugions en elle, puisque il a fallu, pour trouver cette présence vivante de l'Immaculée Conception, ça, je ne peux pas l'expliquer à quelqu'un qui n'en fait pas l'expérience. C'est quelque chose dont on fait l'expérience. On doit faire cette expérience vivante. Il faut d'abord trouver son âme spirituelle, et au fond de son âme spirituelle, trouver cette vie de la grâce qui nous permet de plonger à l'intérieur en toute conscience corporelle et spirituelle. Alors quand je plonge dans cette présence, je plonge en elle, à ce moment-là, c'est elle qui m'enveloppe. Et pourtant, c'est moi qui enveloppe cet mystère de la femme. Comme le dit le prophétie de Jérémie, l'homme enveloppera la femme. Une fois que l'Immaculée est là, l'Immaculée, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que, tout de suite, si je le lui demande, et c'est ce que je lui demande, qu'est-ce que la grâce en moi demande? Elle demande que je rentre enfin dans l'union transformante. Et le seul endroit où je rentre dans l'union transformante, c'est-à-dire que je vis ce qu'elle a vécu en passant de la dormition à l'Assomption. En passant du mystère de la dormition, au mystère de l'Église orthodoxe à l'Assomption, mystère de l'Église catholique, c'est les deux là qui s'unissent, vous voyez, c'est pour ça que le Saint-Père veut que pour le monde nouveau, il y ait l'unité entre la mystique de la Vierge de l'Église par rapport à la femme dans l'orthodoxie et l'unité avec la mystique par rapport à la femme dans l'Église apostolique et romaine. Pour qui est ce passage précisément? La grâce de Marie en tant que plénitude de grâce, elle nous, si on le lui demande, je demande à rentrer dans l'union transformante, de même qu'elle a été faite, elle, nouvelle terre, nouveau ciel. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, comme dit l'Apocalypse, pour décrire ce qui s'est passé dans le passage de la dormition à l'Assomption. Et à ce moment-là, mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit, mon origine, mon actualité avec elle est plongé dans le cœur de Jésus. Dans le feu qui brûle le cœur de Jésus, dans l'omniprésence de la résurrection. Et il y a comme une espèce de mariage, parce que l'union transformante, c'est la septième demeure que je vous ai lue hier, de Sainte Thérèse d'Avila, et ce mariage réalise l'union transformante. Et c'est dans le cœur, dans le feu qui brûle l'amour humain et divin de Jésus dans la résurrection, corporellement, spirituellement et de manière incréée comme créée, c'est là que je brûle moi-même dans une unité spensale en faisant une seule chair glorieuse avec lui. Du moins, c'est l'Immaculée Conception, c'est Marie qui fait une seule chair glorieuse avec lui. Bref, je vis de l'unité spensale finale entre l'homme et la femme, c'est-à-dire entre le Fils de l'homme, Jésus, dans son cœur qui brûle tout, son humanité, et la femme qui est entièrement brûlée dans une seule chair glorieuse avec lui. Ça, c'est extraordinaire, de faire ce passage. Et il faut le demander, il faut dire « Très Sainte Vierge Marie, une fois qu'on l'a retrouvée, cette grâce au fond de notre spirit, l'aspect spirituel de notre âme, laquelle on voit très bien, elle a investi tout notre corps, il faut demander à la Vierge Marie de nous emporter dans la présence, dans le rayonnement, dans le feu, dans la sphère, appelez ce que vous voulez, dans la lumière, dans le où se trouve le cœur sacré de Jésus pour que je m'y enfonce et que je sois entièrement transformé puisqu'elle y est transformée, elle. » Et c'est elle qui fait, grâce à moi, qui refait grâce à moi cet instant absolument extraordinaire qu'elle a vécu le jour de l'Assomption. Grâce à moi, elle repasse de la dormition à l'Assomption. La dormition de mon corps humain pour passer à l'Assomption du corps spirituel, pour retrouver le corps spirituel. Vous comprenez ça? C'est quoi ce corps spirituel? C'est une fois que j'aurai fait ce passage avec elle de manière vitale, que dans le cœur sacré de Jésus, dans l'unité, c'est ça la fécondité entre Jésus et Marie dans l'Assomption, c'est qu'ils vont me faire découvrir mon corps spirituel. Mon corps spirituel, il est là, dans l'unité sponsale de gloire, entre le cœur sacré de Jésus et le mystère et la fusion nuptiale de la femme. Il faut vivre ça, moi je ne sais pas moi comment dire, mais il faut peut-être prononcer, je vous dirais, oula, 5 minutes, peu cher, moi qui voulais vous lire des... Je voulais quand même des petits passages de la Bible pour vous montrer... Eh ben oui, c'est 11h quand même. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 44. On est semé corps psychique. On se relève corps spirituel. Vous voyez, on se relève, se relever, voyez bien, égersis en grec. Le grec égersis montre qu'il s'agit de la résurrection. On est semé corps psychique. 1 Corinthiens 15, 44. On se relève corps spirituel. S'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. Oui. Ah. Et c'est ainsi qu'il est écrit. Le premier homme, Adam, parut en âme vivante. Le dernier Adam, en esprit qui fait vivre. C'est pas tout à fait pareil, vous voyez ? Parce que l'esprit dans le Christ ressuscité, c'est l'esprit du Christ qui anime son corps et qui du coup donne la vie à son corps humain. Tandis que pour Adam, c'est l'âme qui fait vivre son corps et qui peut et qui lui donne la liberté de le vivre sur le plan spirituel. Vous voyez le mouvement différent dans la nature humaine du Christ et la nature humaine d'Adam. Le premier homme, Adam, parut en âme vivante. Le dernier Adam, en esprit qui fait vivre. Il n'y a pas d'abord le spirituel, mais il y a d'abord le psychique, c'est-à-dire le point de vue de l'âme. Ensuite, le spirituel. Voilà pour Adam. Le premier homme tiré du sol est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Notre corps spirituel vient du ciel. Mais on va l'expliquer ça. Hein. Tel est le terrestre, tel aussi les terrestres. Tel le céleste, tel aussi sont les choses célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Je le déclare, frère, la chair et le sang, c'est-à-dire le corps terrestre, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Pour ça d'ailleurs, il ne faut pas faire le mal. Oui, je vais vous dire un grand mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, dormition, mais tous nous serons changés. En l'instant d'un clin d'œil, au dernier coup de trompette, retenez bien ça, la 7e trompette de l'Apocalypse. On va relire, ne vous inquiétez pas, la 7e trompette de l'Apocalypse. Donc, nota bene, rappelez-moi qu'il faut qu'on lise l'Apocalypse, 7e trompette. Au dernier coup de trompette, car elle sonnera, la trompette, et les morts seront relevés incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. 2e Épître aux Corinthiens, verset 5. Nous savons en effet que 2 Corinthiens 5. Nous savons en effet que si la tente qu'est notre maison terrestre, notre corps, vient à être détruite, nous avons une bâtisse qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite à la main, c'est-à-dire à la main des hommes, elle est faite dans les cieux. aussi gémissons-nous dans cet état, c'est-à-dire avec notre corps terrestre. Aussi gémissons-nous dans cet état ardemment désireux de revêtir par-dessus l'autre notre habitation céleste, notre corps spirituel. C'est un revêtement, voyez. Puisque l'ayant revêtu, nous ne serons pas retrouvés nus. Car nous qui sommes dans cette tente, corps terrestre, nous gémissons accablés. Nous ne voudrions pas en effet nous dévêtir, mais nous revêtir par-dessus. C'est extraordinaire ça, n'est-ce pas ? Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Il faut que notre corps terrestre soit englouti par notre corps spirituel et qu'il y ait une harmonie qui se fasse entre les deux. Et voilà ce que nous voudrions qu'il se produise. Et c'est ça le monde nouveau. Parce que si on ne fait pas comme ça, eh bien on meurt, on laisse notre dépouille mortelle, on retrouve le corps spirituel au ciel en attendant qu'on retrouve notre corps terrestre après la résurrection. Mais ce que saint Paul dit explicitement, c'est que ce qu'on voudrait, c'est que dès avant la mort, on puisse revêtir le corps spirituel et mettre en harmonie le corps spirituel avec notre corps terrestre. Et c'est ça, l'espérance eschatologique, c'est-à-dire le travail de l'Église de la fin. Si elle ne fait pas ce travail, il n'y aura pas de Jérusalem céleste. Il n'y aura pas de septième trompette. Et si sur la terre il y a dans le corps mystique de Jésus des gens qui rentrent dans le monde nouveau institué et mis en place par le Saint-Père, voyez, alors à ce moment-là, vivant du cœur de Jésus, du feu qui brûle le cœur de Jésus, totalement donné à l'Immaculée Conception, notre corps terrestre justement, à ce moment-là, va pouvoir être aspiré dans la découverte qu'aura fait notre âme de son corps spirituel. Mais vous savez, ce que dit la Vierge à une petite paysanne que j'aime bien, n'est-ce pas? Je ne vous dirai pas c'est qui. 10 ans sont nécessaires pour la mise en place du corps spirituel de l'être nouveau, pour qu'il puisse être porteur de la vie nouvelle. Dans 10 ans, c'est bientôt. Bon. Alors, mais c'est normal parce qu'il faut 10 ans pour le corps terrestre se renouveler. Médicalement déjà, rien que médicalement. L'ensemble du poids des cellules, du poids cellulaire, 50 000 milliards de cellules, se renouvelle totalement, sauf les cellules nerveuses, mais ton poids cellulaire est totalement renouvelé en 10 ans. Alors, je continue la lecture de Saint Paul. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés. Nous ne voudrions pas en effet nous dévêtir, mais nous revêtir par-dessus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela même, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit Saint. Donc c'est bien à partir des dons du Saint-Esprit au fond de notre âme, lesquels ne peuvent venir que de l'humanité intégrale. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'humanité intégrale, c'est-à-dire hommes et femmes réunis dans la gloire, qui peuvent nous produire en notre âme les arts de l'Esprit Saint. Donc c'est bien cette unité entre la Très Sainte Vierge Marie et le Sacré-Cœur, dans la grâce qui est la nôtre, hein, qui va nous permettre de découvrir notre corps spirituel, qui va y avoir donc la possibilité pour l'Esprit Saint de resplendir et d'attirer notre corps terrestre dans notre corps spirituel. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15. Oui, c'est une note de la Bible d'Ostie qui dit: les vivants revêtiront le corps spirituel par-dessus le corps psychique qui sera englouti par la vie, par le premier. Donc, je cite le passage de 1 Thessaloniciens. Nous, les vivants, qui serons restés pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Verset 17. Nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est un petit passage qu'on connaît par cœur, puisque tout le monde lit la Bible tous les jours ici. Donc, Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Ça, je viens de lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 et 17. Je viens de lire le 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 et 17. Et maintenant, je vais lire Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Revêtez-vous de la panoplie de Dieu, car notre tente, je crois que c'est notre tente, mais... Ah, pardon, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, le corps terrestre, mais contre les puissances, vous voulez lire, parce que moi, je n'arrive pas à me relire.
Verset 10, alors.
Éphésiens 6, 10.
Le combat spirituel.
Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang.
C'est Éphésiens, pourtant. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Vous avez le combat spirituel. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Remettez l'armure de Dieu pour pouvoir
résister
aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter,
mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres.
Contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes.
Contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Voilà pourquoi prenez la panoplie de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, mettre tout en œuvre et tenir. Debout donc, ayant aux reins la vérité pour ceinture. Ça, c'est une petite description du corps spirituel, n'est-ce pas? La panoplie de Dieu, de votre corps spirituel. La vérité pour ceinture. Pour vêtements, la cuirasse de la justice, c'est-à-dire de l'ajustement à l'amour de Dieu. Et pour chaussures aux pieds, la promptitude, l'agilité. Le corps spirituel est agile. La promptitude à annoncer l'évangile de la paix. Avec tout cela, prenez le bouclier de la foi. Grâce auquel, ça c'est la subtilité du corps spirituel, grâce auquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Recevez aussi le casque du salut et le glaive de l'esprit qu'est la parole de Dieu. Il y a la langue, voyez, il y a la tête. Première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 29. Oui, j'avais noté ça, mais parce que je voulais vous commenter, mais je ne veux pas avoir le temps. C'est Saint Jean qui dit ici, « Tout homme qui pratique la justice, c'est-à-dire avec un grand J, est né de lui, est né de Dieu. Tout homme qui pratique la justice est né de lui. » On le commentera, ne vous inquiétez pas. Et enfin, je voulais vous signaler aussi l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 18. Dans son libre vouloir, il nous a donné naissance par une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Dans son libre vouloir, Dieu nous a donné naissance par une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. L'Église tout ce qui est prophétisé sur l'Église comme nouvelle naissance, vie nouvelle, monde nouveau dans la Bible, regarde comme une espèce de prophétie qui va se réaliser à l'Église de la fin. Et il y a les prémices de la Jérusalem céleste avant qu'elle n'apparaisse, la septième trompette. Et donc, quelque part, il y a effectivement une espèce de volonté divine qu'il y ait comme une réunification, une nouvelle naissance jusque sur le plan du corps par la grâce de la part de ceux qui font partie du corps mystique de l'Église de la fin. C'est un petit peu ça que, pour ça que je voulais vous montrer tous ces passages, pour vous montrer quand même qu'on n'est pas quand même totalement en dehors de l'Écriture quand on parle de ça, du corps spirituel. Mais simplement, je voulais simplement quand même vous dire, j'ai juste 5 minutes, puisque je vous ai promis que je vous lisais des passages d'une petite paysanne que j'aime bien. Histoire de nous recréer avant de continuer à méditer sur le corps spirituel, parce que là maintenant, la prochaine fois, ce qu'on va essayer de voir, c'est de regarder mais qu'est-ce que c'est que ce corps spirituel en fait, quoi, hein? Puisqu'on sait qu'il existe maintenant, très bien, mais où est-ce qu'on le trouve, comment il est, et quelles sont ses caractéristiques, etc. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de trouver ça. Mais il y a des très belles choses, une fois qu'on l'aura trouvé, ce sera très agréable. Il faut essayer, et c'est ce par quoi il faut commencer, de voir à l'intérieur de notre âme spirituelle. Décidément, vous finirez par le savoir. C'est cela qui permet de découvrir la présence personnelle de ceux qui sont au ciel. Il faut commencer, essayer et commencer de voir dans notre âme spirituelle. C'est ce que je viens de vous dire, remarquez bien. C'est cela qui permet de voir, de découvrir la présence et les personnes de ceux qui sont au ciel. Le temps est clos. L'heure est arrivée. Tout être va être coupé. Tout être est coupé par la faute originelle. Il a perdu sa transparence. En se branchant sur Dieu, tout change. Et on retrouve son ancien corps originel. Vous êtes les premiers à pouvoir en faire l'expérience. Et en se branchant sur Dieu, donc je vais répéter, le temps est clos, l'heure est arrivée, tout être est coupé par la faute originelle. Il a perdu sa transparence, en se branchant sur Dieu, tout change. Et on retrouve son ancien corps originel, tu es le premier enfant. Vous êtes les premiers enfants à en faire l'expérimentation. Pour être prêt à recevoir ce don du Saint-Esprit, je vous apporte ce premier acte. Donc le premier acte, c'est justement de découvrir dans son âme spirituelle, à travers le Sacré-Cœur de Jésus, la présence de la Vierge, son corps spirituel. Je vous apporte à ce premier acte, tous les autres s'enchaîneront et suivront pour vous élever hors de ce monde et pour vous permettre d'être baptisé par l'esprit de feu qui est flamme d'amour et de lumière. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de noter. Tu, il suffit de remettre ça dans son cœur, surtout.
Oui, non.
Je vais désormais t'appeler à tout voir, à tout entendre, à tout faire dans ma ligne pure. La ligne pure, c'est une expression qui, c'est exactement le contraire de nos émotions, vous savez. Ce qui sort de notre cœur, c'est droit et pur à l'origine, puis ça se tord dans les émotions. Tandis que la ligne pure, c'est Sacré-Cœur. C'est quelque chose qui désigne le Sacré-Cœur. J'ai tracé dans mon cœur une ligne pure. Son amour va tout droit sur nous, il nous brûle, il nous transforme, il nous recrée. Oui. Alors, je vais désormais t'appeler à tout voir, à tout entendre, à tout faire dans ma ligne pure. Je te retire du monde. Tu es enfant de la résurrection. Respecte le mardi qui a été choisi parce que c'est le jour des saints anges. Respecte-le car je veux qu'il puisse vous soutenir au moment opportun. Une chaîne va se former et par eux, vous serez relié à moi jour et nuit. À partir du moment où ça, c'est ce qu'on verra plutôt samedi, on verra qu'à partir du moment où on sera accoutumé à vivre uni à notre corps spirituel, vous verrez qu'à ce moment-là, on sera tout à fait récepteur, complètement récepteur du rayonnement et de la présence continuelle du monde angélique tout entier, qui pourra ainsi se servir de l'Église pour détruire le mal. Mais en attendant, déjà, sachez que dans votre corps originel que vous retrouvez, en revivant de ce branchement avec la paternité divine créatrice de Dieu, qui unit votre esprit à votre corps et votre corps à votre esprit, sachez simplement que vous pouvez déjà maintenant, chaque fois que vous caressez votre visage, comme ça, avec vos cinq doigts, j'aime beaucoup ce passage, qu'il y a quelque chose qui passe de votre corps à votre corps, ou du corps au corps de l'autre, grâce à vos cinq doigts. Je vais vous lire ça. Sachez qu'à travers les cinq doigts, vous transmettez la patience, la bonté, l'amour, la foi et la joie. Alors, moi j'aime beaucoup ça. Tu te caresses comme ça avec tes cinq doigts et tu sais que tu transmets dans cette caresse une espèce de branchement ondoyant, lumineux, spirituel, recréateur, de patience, de bonté, d'amour, de foi et de joie. Ah, ça, c'est quelque chose qu'il faut... Il faut réapprendre à se servir de ses doigts.
Quelquefois, le geste de la maman...
Oui, le geste de la maman, spontanément, quand une maman... Tout à fait spontanément, la maman, quand elle a un tout petit nouveau-né, spontanément, il y a la patience, la caresse contient les vibrations spirituelles, les ondoiements spirituels correspondant à ce qu'elle porte dans son cœur, et ça passe par ses doigts. La patience se communique au cœur de l'enfant, ainsi que la bonté, l'amour, la foi et la joie. J'aime beaucoup ce passage-là, cette espèce donc de demande que le Saint-Père nous fait, de reprendre conscience de notre corps spiritualisé dans l'acte créateur de Dieu. Et c'est un petit peu le passage que je vous ai lu hier, de Sainte Thérèse d'Avila. Parce que Sainte Thérèse d'Avila, qui voit une âme spirituelle, telle qu'elle est créée par Dieu dans le corps, à l'origine, dans son origine, comme cette espèce d'extraordinaire diamant, cristallin, rayonnant, réflecteur, lumineux, comme disait le père hier, phosphorescent. Hein. Retrouvez ce corps spirituel à l'origine, rappelons-nous toujours. Je crois qu'il faut quand même se rappeler. Donc finalement, on va essayer de distinguer trois aspects. C'est toujours le même corps, on est donc d'accord. Hein. Mais il va avoir des modalités différentes. À l'origine, ce corps est dans l'innocence divine. Il est comme cette espèce de cristal rempli de lumière, où le divin habite totalement. Sa vitalité imbibe notre corps, imbibe notre âme. Dans le premier instant de la créateur, c'est vrai qu'il y a une fusion vivante entre la présence créatrice paternelle de Dieu, qui lui est dans l'omniprésence dans sa vie, et ma vie qui est limitée à mon corps. Et c'est ce qui fait que mon corps, d'ailleurs, originel, a comme une relation avec l'omniprésence. On est en relation avec tous les éléments du cosmos et tous les corps par le point de vue de la substance et par le point de vue de la sagesse créatrice de Dieu, par le point de vue vivant. Et cette innocence divine qui fait que notre corps originel est un corps qui n'a strictement aucune opacité. Dans la première cellule, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis, tout d'un coup, donc, il y a cette espèce de gang, cette gang qui se met, péché originel, mais aussi tous les fautes, le buvard que représente notre âme spirituelle dans un corps par rapport à toutes les vibrations ténébreuses de ce monde, qui fait qu'on est complètement gangué. Et cette gang finit même par pénétrer les parties périphériques de l'âme corporelle. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le corps terrestre, c'est les parties ganguées de notre corps animé, n'est-ce pas? Et le corps spirituel, c'est ce qui va remplacer les parties ganguées de notre corps terrestre par le point de vue donc de la gloire. Donc il y a quand même une différence entre le corps originel, le corps terrestre et le corps spirituel. Ça va? Je crois que c'est facile à comprendre. Mais tout le problème, donc, c'est de commencer par revivre au centre de notre identité, notre je suis, donc retrouver notre corps originel. Et donc retrouver la présence donc, de l'innocence divine qui est restée là, dans chacune de nos cellules, là où l'esprit anime encore notre corps. Mais cependant, dans la partie périphérique, j'allais dire, de la conscience psychique que nous avons de notre corps, il y a une pénétration, on ne peut pas dire le contraire, d'opacité, de lourdeur, de concupiscence et de fêlure. Et en même temps aussi des complicités, donc des pénétrations, donc des puissances, des principautés et des puissances qui gouvernent ce monde de ténèbres. Voilà. Alors ça, c'est le corps terrestre. Il faut donc retrouver la partie spirituelle de notre âme et dans la spirituelle, ne pas s'enfermer dans le point de vue donc de la présence de l'innocence divine. C'est pas ça. Il faut retrouver au contraire, avec cette innocence divine, il faut retrouver donc la présence triomphante de l'Immaculée Conception qui est glorifiée dans son corps de femme, dans le cœur sacré de Jésus. Et à ce moment-là, on découvre notre corps spirituel qui nous attend. Le corps spirituel, il est dans le ciel, il est dans l'éternité, notre corps spirituel. Mais nous pouvons le retrouver, puisque Jésus et Marie sont dans l'éternité, dès lors que j'ai un contact physique avec eux, à ce moment-là, je retrouve mon corps spirituel et je m'habitue à vivre dans le corps spirituel qui est le vecteur de la glorification de mon corps dans la future gloire éternelle que je vivrai tout entier. Donc, je vais revêtir mon corps spirituel de gloire, je peux le revêtir dès maintenant à travers le cœur sacré de Jésus.